VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous, c'est confirmé à Madagascar. Un second tour devra départager le mois prochain les deux anciens présidents malgaches, André Rajoelina et Marc Ravalomanana, arrivés en tête du premier tour de la présidentielle selon les résultats définitifs proclamés aujourd'hui par la Cour constitutionnelle. Aucun des 36 candidats en liste le 7 novembre dernier n'a obtenu les 50% de voix requis pour être élu dès le premier tour. André Rajoel est arrivé en tête avec 39,23% des suffrages devant Marc Ravalomanana, 35,35% selon les chiffres publiés par la HCC qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours. Les deux hommes se retrouveront donc pour un second tour le 19 décembre prochain. En République démocratique du Congo, des dizaines de milliers de personnes ont salué hier le retour à Kinshasa du tandem Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Les deux opposants ont promis d'aller aux élections du 23 décembre avec ou sans la machine à voter que d'autres opposants qualifient de machine à tricher. Eddy Sango.
La police a brièvement fait usage des gaz lacrymogènes pour tenter d'accélérer les rythmes du cortège entre l'aéroport de Ndjili et les centres-villes. Nous irons avec le peuple et nous allons gagner, a déclaré M. Tshisekedi avec Vital Kamerhe, son directeur de campagne, qui a assuré qu'ils vont atteindre carrément les 60% de l'électorat. M. Tshisekedi, 55 ans, est le président et le candidat d'élu de PS fondé par son père Etienne Tshisekedi. M. Kamerhe, 59 ans, est un ancien président de l'Assemblée nationale, ancien directeur de campagne de Joseph Kabila en 2006 et passé à l'opposition depuis 2011. Le 12 novembre, ils se sont retirés au bout de 24 heures d'un accord entre sept opposants à Genève désignant Martin Fayulu, candidat commun de l'opposition. M. Fayulu a été salué par des milliers de personnes à son retour à Kinshasa mercredi dernier. Il est soutenu par les opposants Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. En face, l'ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari et les porte-drapeaux du Front commun pour le Congo et l'élection présidentielle du 23 décembre est un scrutin à un seul tour.
Cinq médias internationaux ont publié aujourd'hui le premier volet d'une enquête sur le meurtre en 2017 de deux experts des Nations Unies en RDC, selon laquelle l'ONU a été partagée entre quête de la vérité et souci du compromis avec Kinshasa. L'enquête s'appuie sur des milliers de pages de documents confidentiels des Nations Unies et revient sur le rôle trouble attribué à des agents de l'État congolais dans le meurtre des deux experts le 12 mars 2017 dans le Kasaï, dans le centre de la République démocratique du Congo. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis le 24 octobre à Riyad, quitte la capitale saoudienne ce mercredi pour Rabat au Maroc pour poursuivre sa convalescence, a annoncé mardi son épouse Sylvia sur sa page Facebook. Elle a précisé que ce transfert de Riyad à Rabat a été rendu possible grâce à l'amélioration très significative de l'état de santé de son époux. Au moins 29 personnes ont été blessées dans un attentat suicide perpétré ce mercredi par une femme à Amchidé, ville camerounaise de la région de l'extrême nord, régulièrement frappée par des attaques de djihadistes de Boko Haram du Nigeria voisin. Avant de pouvoir passer à l'action, une deuxième femme kamikaze a été abattue par des soldats déployés dans la ville pour contrer Boko Haram, selon l'armée.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Nigeria, les médias s'unissent pour lutter contre la désinformation en amont de l'élection présidentielle de février, au moment où les principaux partis politiques s'accusent mutuellement de fausses informations. Le projet Crosscheck Nigeria, en collaboration avec le Centre international du journalisme d'enquête d'Abuja et First Draft, une ONG britannique qui vise à lutter contre la désinformation dans le monde entier, ambitionne de faire travailler ensemble des médias habituellement concurrents pour enquêter et réfuter l'afflux de fausses informations sur les réseaux sociaux. Les Nigériens se rendront aux urnes en février prochain pour élire leur président, leurs députés et leurs gouverneurs. Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré a affirmé hier ignorer qui a commandité la tentative de coup d'État de 2015. C'était au deuxième jour de sa comparution au procès des putschistes présumés à Ouagadougou. Bagassi Koura.
Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire qui a commandité, qui a ordonné le coup d'État, a déclaré le général Gilbert Diendéré. La veille, il avait catégoriquement nié être à l'origine du coup d'État manqué Il avait pris la tête du Conseil national pour la démocratie, organe dirigeant des putschistes, avant de rendre le pouvoir face à la pression populaire et celle de l'armée loyaliste. Il a été pendant 3 décennies un des hommes forts du pays comme chef du régiment de sécurité présidentielle, l'unité d'élite qui a perpétré le coup, puis chef d'état-major particulier du président Blaise Compaoré jusqu'à sa chute en fin 2014. Golfo, comme le surnomme le Burkinabé, est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, trahison et meurtre. Le coup de force a fait 14 morts et 270 blessés en septembre 2015. 84 accusés sont jugés par un tribunal militaire depuis le début du procès en février, dont un autre général, Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères. Maître Séraphin Sommet, avocat de la partie civile, a fait part de sa déception. L'audience doit reprendre aujourd'hui avec les questions du parquet militaire.
La Mauritanie célèbre le 58e anniversaire de son indépendance. En 1960, Biram Dah, leader d'un mouvement anti-esclavagiste, est en prison depuis le mois d'août à la suite d'une plainte déposée par un journaliste. C'est derrière les barreaux que Biram Dah Abeid a été élu député aux dernières législatives en septembre, mais il reste toujours en détention. La réaction de Kadiata Malik Diallo, député à l'Assemblée nationale, à Nouakchott.
C'est une autre aberration de l'arbitraire, le règlement de compte contre les opposants. C'est tout ce que Oul Abdelaziz sait faire. Et nous avons vu, malheureusement, le député Biram Dah Oul Abeid amené à l'hôpital pour consultation. Et c'est menottes au poignet qu'il a été présenté à l'hôpital devant des médecins. Et donc, c'est une situation vraiment qu'on ne peut pas qualifier. C'est tout simplement inadmissible qu'on puisse avoir un traitement fait à quelqu'un qui est de surcroît un parlementaire, donc qui jouit d'une immunité. Donc, voilà la situation en Mauritanie.
Kadiata Malik Diallo, députée mauritanienne.
VOA Afrique, en direct de Washington.
À l'étranger, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé aujourd'hui le gouvernement afghan et les talibans à mener des pourparlers de paix directe, tandis que le président afghan, Ashraf Ghani, indiquait avoir constitué une équipe de négociation de 12 personnes. Dans un discours lu par la sous-secrétaire générale de l'ONU à l'ouverture d'une réunion ministérielle sur l'Afghanistan à Genève, M. Guterres a affirmé que trouver une solution politique est plus urgent que jamais. L'Arabie saoudite a confirmé aujourd'hui un don de 50 millions de dollars en faveur de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens qui fait face à des difficultés financières depuis l'arrêt de l'aide américaine annoncée en août par l'administration Trump. L'annonce a été faite par Abdallah Al-Rabia, qui dirige le Centre Roi Salman pour l'aide humanitaire, lors d'une conférence de presse en présence du chef de l'agence onusienne UNRWA, Pierre Krenhenboul. La sénatrice républicaine sortante Cindy Hyde-Smith a été réélue mardi dans le Mississippi, nous sommes aux États-Unis, après avoir reçu le soutien appuyé de Donald Trump, qui conforte ainsi sa majorité au Sénat américain à l'issue des élections parlementaires. Cindy Hyde-Smith a battu son opposant démocrate Mike Espy au deuxième tour. Ce scrutin marque la fin des élections de mi-mandat aux États-Unis. Les républicains détiendront 53 des 100 sièges du Sénat à la prochaine rentrée parlementaire en janvier. Les démocrates reprendront en revanche le contrôle de la Chambre des représentants après leur nette victoire le 6 novembre dernier. La rencontre prévue entre Vladimir Poutine et Donald Trump au G20 en Argentine est toujours en préparation malgré la menace du président américain de son annulation à cause des tensions en Ukraine, a affirmé aujourd'hui le Kremlin. Donald Trump a menacé mardi d'annuler sa rencontre bilatérale prévue en fin de semaine avec le président russe en raison de la capture dimanche par des gardes-côtes russes de 3 bateaux militaires ukrainiens avec leur équipage au large de la Crimée. L'Ukraine et la Russie sont engagées depuis dimanche dans leur pire bras de fer depuis l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014. Et puis, Buenos Aires se met donc en ordre de bataille pour accueillir le G20. Vendredi et samedi, les chefs d'État et de gouvernement des pays du G20 se réuniront dans un centre de congrès au bord du Rio de la Plata qui sépare l'Argentine de l'Uruguay, une zone coupée du reste de la ville par une autoroute, une voie de chemin de fer et des cordons de policiers. 24 000 forces de l'ordre déployées, une partie de la capitale argentine interdite d'accès, des stations de métro et un aéroport fermé du jamais vu. Fin de ce journal.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.